Questions diverses. Chapitre 10. Dialogue avec l'invisible. Bernard de Montréal. Parlez-nous de l'alchimie. Réponse. Quel que soit leur plan dans l'univers, les entités intelligentes doivent se déplacer d'un point à un autre. Les transports séraphiques sont des systèmes permettant à des intelligences avancées de l'univers local de se déplacer dans les vastes espaces sidéraux. Ces vaisseaux, propulsés par la lumière, ont la capacité de passer d'un espace-temps à un autre sans subir de distorsions matérielles, de sorte que leurs dimensions doivent forcément demeurer voilées afin de ne pas bousculer les âmes qui viennent en contact avec elles tant et aussi longtemps que la fusion ne sera pas répandue dans votre secteur. Bernard de Montréal. Un nombre grandissant de personnes, de par le monde, sont contactées par des anges. Commentez ce phénomène inusité. Réponse. Les plans astraux sont à l'assaut de toute conscience naïve, de sorte que les incidents de communication avec des entités de l'astral augmentent dans le monde. L'ego, aliéné par la vie moderne, perçoit tout contact avec l'astral comme une liaison avec le divin. L'homme ignore les lois occultes et sa méconnaissance fait de lui une proie facile en ces temps nouveaux. Dans ce phénomène angélique, le symbolisme des grandes religions est utilisé et pris d'assaut par les entités qui cherchent à dominer la conscience directement, maintenant que l'influence des courants majeurs de la pensée religieuse s'atténue. Un nombre grandissant de personnes sensibles deviennent victimes de ces contacts dont certains peuvent mener à une folie douce, surtout chez les femmes plus délicates et plus réceptives. L'esprit humain est facilement possédé par des forces occultes contre lesquelles l'être, non avisé, n'a que peu de moyens de défense dans sa solitude spirituelle. La possession astrale se répandra en périphérie des grandes religions car la religiosité est en mutation sur votre planète. Vous entrez dans un âge où beaucoup de notions seront renversées. Les entités chercheront à combler le vide au détriment de l'intelligence objective. Une grande lumière et une inébranlable identité personnelle seront nécessaires pour discerner le mensonge des sphères puisque tout contact avec ces plans est fondé sur l'allusion à la vérité. Les êtres contactés par des entités spirituelles doivent se libérer de ce mirage s'ils veulent comprendre le réel et déchirer les voiles de l'astral. Il leur faut questionner toute dictée spirituelle avant de pouvoir confronter les entités qui les possèdent et les démasquer. Dans la possession spirituelle, l'homme perd le contrôle de ses facultés critiques. L'humanité entre dans un nouveau et très important cycle d'évolution. Ce grand changement bouleversera les consciences. Le phénomène des anges qui contactent les hommes et les apparitions de la Vierge font partie de cette révolution. Ces expériences exigeront un grand discernement. Ce n'est pas la réalité du phénomène qu'il faut remettre en question mais la légitimité des messages. L'invasion de la conscience humaine doit être mise en perspective et éclairée afin de protéger les esprits naïfs manipulés par des entités. Ces dernières doivent être confrontées et mises en échec. Sinon les hommes seront victimes d'une conscience spirituelle qui ignore les lois occultes de la mort. Tant que le symbolisme des religions servira de référent pour valider un supposé contact avec les anges, l'humain risquera de succomber au pouvoir de la possession. Il ne faut pas perdre de vue que les religions sont fondées sur des voiles opaques mais nécessaires, permettant à l'homme de se former un corps de conscience morale suffisamment développé pour qu'il puisse freiner volontairement sa nature animale. Mais elle ne représente pas pour autant la fin de l'évolution de la conscience mentale humaine, donc de l'intelligence. L'homme découvrira le poteau rose des mystères lorsqu'il aura pris conscience de la manipulation des sphères. La science des mondes commence là où les religions la délaissent. Il ne faut pas être naïf et croire que les mystères du cosmos peuvent être dévoilés à des esprits d'enfants, pas plus que vos sciences matérielles ne peuvent être assimilées par des esprits non formatés par vos académies. Le grand danger que subiront ces masses, face à ses contacts avec l'au-delà, réside dans la contagion de l'ignorance spirituelle. Les êtres spirituels ignorants sont plus présomptueux, occultement parlant, que les intellectuels orgueilleux, car ils sont totalement dépouillés de sens critique et objectif. Si vous ne pouvez confronter une entité avec votre lumière, vous ne pouvez être qu'assujetti à elle car elle peut vous faire croire ce qu'elle veut. Un autre danger réside dans la formation de sectes. Lorsqu'un phénomène spirituel prend suffisamment d'ampleur, la possibilité de la formation de sectes s'ensuit car elles nourrissent un profond besoin de croire. Bernard de Montréal. Quelles sont les illusions de l'écriture automatique? Réponse. L'écriture automatique dépend beaucoup de la manière dont vous vibrez l'énergie de votre système nerveux, ainsi que sa relation avec la pensée qui vous anime. La pensée doit être directement reliée à l'outil de l'écriture sinon vous ne remplissez qu'une fonction de transmission mécanique et ne bénéficiez d'aucun pouvoir créatif qui relève de la conscience unifiée. Cette forme d'écriture doit vous permettre de transcrire ce qui vibre sur le plan supérieur du mental. Dans le cas contraire, vous êtes victime de la manipulation de votre esprit par des entités astrales qui s'amusent à vous faire croire que vous faites de l'écriture alors que vous n'êtes qu'en phase manipulatrice. L'écriture doit être créative et fondée sur une collaboration entre les plans subtils du mental et l'homme qui en est l'expression dans la matière, sinon vous n'apprenez rien. Dans ce cas, vous ne faites pas de l'écriture mais plutôt un exercice inutile. L'écriture doit transposer, sur le plan matériel, de l'information accessible par le biais du mental dont les archives sont à la disposition de l'homme par l'entremise du double, la contrepartie lumière de son intelligence. L'écriture automatique ne sert à rien si elle ne vous permet pas de collaborer dans un mouvement intégral de conscience à une science transmise télépathiquement mais exécutée dans le mouvement mécanique de l'écriture. Ce côté mécanique ne sert qu'à désengager l'ego d'un processus créatif qui l'obstruerait s'il n'était pas conscient que l'information lui vient d'ailleurs. La conscience qu'a l'écrivain du caractère paranormal de l'information met en relief la fonction occulte de ce type d'écriture qui permet de définir la réalité selon un point de vue indépendant de l'ego. Cet aspect occulte de la conscience créatrice permet de concevoir des données qui ne sont pas du registre de l'intellect. L'écriture automatique implique que la conscience de l'individu soit suffisamment harmonisée à son moi universel afin qu'il puisse canaliser de l'information pouvant lui servir. Sinon, il subit une forme de manipulation astrale alors qu'on lui fait croire qu'il fait de l'écriture automatique dans un mode créatif. Il n'est pas nécessaire que la relation avec les plans subtils soit parfaite dans le sens d'une télépathie intégrée où le moi est totalement versé dans l'art de la communication. Par contre, il est nécessaire qu'il soit en contrôle de sa relation avec la source de l'information. Sinon, il n'est qu'une extension de conscience nerveuse servant de conduit à une entité qui met en vibration ses corps subtils sans en allumer la conscience. L'écriture automatique doit être un mouvement subtil de la conscience et non simplement le jeu nerveux d'un esprit. Bernard de Montréal. La réincarnation existe-t-elle ? Réponse. La réincarnation est une composante des forces dynamiques de la conscience énergie que vous appelez âme. Elle procède de l'imperfection des matières cosmiques en évolution et du besoin de les raffiner ou de les épurer. Sans elle, le processus de filtration nécessaire à l'évolution des systèmes de vie serait impossible car la densité originelle des forces de vie doit être réduite au cours du développement de la conscience afin qu'elle puisse graviter vers les plans supérieurs de la conscience universelle. Sans réincarnation, les âmes seraient vouées à des états de vie qui les condamneraient à une pollution spirituelle irréversible car le plan astral est anti-lumière si nous tenons compte de la nature de ces dominions. Une telle condition équivaudrait à une très haute forme d'esclavage dans un univers où le développement de l'intelligence précède celui de la contemplation. La raison pour laquelle la réincarnation est fondamentalement liée à l'évolution et au développement des formes de vie est due au fait qu'elle permet à ces énergies intelligentes de disposer de leur passé. Elle les libère des plans inférieurs qui leur ont été utiles au cours de l'évolution de leur statut. Il ne s'agit pas de croire ou de ne pas croire en la réincarnation. Cela ne changerait en rien la nature des choses. L'homme doit savoir selon lui-même. Par contre, un tel concept facilite la compréhension des mystères de la vie de l'âme et permet de mieux vous greffer à des notions plus avancées en ce qui concerne l'évolution des systèmes de vie. Lorsque l'homme jouira de la télépathie avec les circuits universels, de telles questions seront invraisemblables et ne feront plus partie de sa démarche intellectuelle. Les mystères ne sont compréhensibles qu'à l'aide d'entretiens intelligents avec l'invisible. Bien qu'un tel lien ne soit pas à la portée de tous les hommes, il est définitivement essentiel à toute réflexion sur les mystères. On ne peut penser à ce qui ne se pense pas. Il faut y accéder par télépathie. Bernard de Montréal. Combien de réincarnations peut-on vivre ? Réponse. L'âme s'incarne par désir d'évolution et cherche fortement à se réincarner lorsqu'elle a épuisé son temps en forme astrale. Pour elle, le temps équivaut un peu à l'oxygène pour le corps matériel. Lorsqu'il est épuisé, l'âme s'incarne afin d'améliorer son état. Ceci peut demander qu'elle s'incarne deux, trois fois ou plus, selon qu'elle dispose suffisamment d'informations sur elle-même pour assurer la construction d'un plan de vie adéquat. La construction du plan de vie et son matériel, donc la mémoire, dicte combien de fois une âme peut s'incarner. Si l'on vous demandait combien de disquettes pouvez-vous tirer d'un disque, vous diriez que cela dépend de la quantité de mémoire enregistrée sur le disque. C'est un peu la même chose pour la réincarnation. Tant que l'âme n'a pas satisfait son élan spirituel, c'est-à-dire son mouvement vers une certaine perfection, elle cherche à s'incarner et au cours de ce processus, elle perd forcément mémoire de son ancienne forme astrale. Suite à son expérience nouvelle, elle en découvrira une autre, l'équivalent d'une peau neuve à son retour sur le plan astral. Une fois qu'elle aura fait peau neuve, elle n'aura plus mémoire de ses anciennes vies. Passant de l'involution à l'évolution, elle se réconciliera avec elle-même et s'enveloppera dans une lumière éclatante. Elle saura alors qu'elle est sur plan moronciel. Elle se déplacera alors librement dans l'univers local, ne sera plus une âme dans le sens d'une mémoire, mais une conscience moronciel unifiée à sa source. Bernard de Montréal. Les âmes évoluent-elles vers d'autres planètes? Réponse. L'univers est un vaste ensemble de mondes en évolution de conscience. L'âme participe à cette évolution complexe à travers des mondes et des temps qui ne se ressemblent guère. L'affection pour le caractère grandiose de l'univers physique vous embrase, pourtant il vous est difficile de concevoir l'évolution selon les migrations systémiques. Parmi les âmes qui s'incarnent dans votre monde, certaines proviennent de souches lointaines. Elles jouissent d'incarnations particulièrement enrichissantes car elles apportent avec elles une lumière que les âmes en astral terrestre ne manifestent pas. Elles sont porteuses de vibrations qui leur permettent de traiter avec la vie d'une manière plus avancée, contrairement à certaines qui n'ont jamais évolué au-delà des cycles astraux de la réincarnation terrestre. Les âmes viennent de toutes parts dans l'univers possédant des attributs particuliers et très favorables à une planète telle que la vôtre. Il est essentiel de réaliser que la Terre est une planète en quarantaine et que son statut universel est constamment réévalué afin d'ajuster le cycle karmique dont elle est responsable. BMD, quelques mots sur la genèse des archives akashiques. Réponse. Les archives akashiques sont de vastes bibliothèques qui servent de mémoire à l'univers. Tout y est enregistré. Les êtres qui, à partir de leur propre dimension, dirigent la destinée des mondes les utilisent pour planifier les évolutions et structurer les événements qui servent au développement des consciences à tous les niveaux. L'univers est multidimensionnel. Les archives sont la mémoire de tous les plans de vie dans toutes les dimensions. La synchronicité des enregistrements est une nécessité cosmique. Un événement sur le plan matériel est instantanément enregistré sur d'autres plans afin que jamais un secteur de l'univers n'évolue aux dépens d'un autre. Les archives dérivent du retour perpétuel de l'énergie vers sa source et ce retour dicte la nécessité cosmique d'enregistrer tous les événements. Puisque l'univers est constitué en paliers ou dimensions dont la perfection est relative, il est inévitable que certains mondes progressent selon des lois qui leur attribuent des avantages spatio-temporels. Ce qui explique qu'il y a des mondes plus évolués que d'autres. Les archives leur permettent de faire usage d'une très vaste mémoire, ce qui crée un ordre de perfectionnement qui serait impossible si chaque plan était refermé sur lui-même. Une destinée ne peut être engendrée que dans la mesure où une science supérieure s'impose. De là, la nécessité cosmique de conserver tout ce qui évolue. La mémoire cosmique témoigne du retour à la source de toute conscience. Si la lumière ne retournait pas à ce point originel, les archives n'existeraient pas. Ce qui est impossible du fait que toute énergie est indissociable de la réalité des plans supérieurs qui marquent son point d'origine, et ainsi de suite jusqu'à la source absolue qui en a la paternité et le lien entre tout ce qui existe. Voilà pourquoi les archives enregistrent jusqu'à la dernière trace d'une conscience en évolution. Cette dernière trace est le moment de la conscience et son mouvement s'enregistre dans les archives à l'instant même. Si l'être est inconscient, l'enregistrement s'exécutera sur le plan astral de sa conscience. S'il est conscient, il se fera sur le plan mental. C'est l'unique différence. Lorsque l'on parle d'archives universelles, il faut comprendre que l'enregistrement des événements dans la vie s'effectue selon les degrés de conscience. Un être très conscient se verrait enregistré sur des plans universels plus avancés, alors d'un être moins conscient se verrait enregistré sur les plans moins développés. Cette condition reflète une nécessité systémique de rapatrier les mémoires selon un ordre de grandeur qui satisfait les conditions plus ou moins développées des mondes qui doivent utiliser ces informations. Il serait inutile d'enregistrer de l'information de bas niveau dans des banques qui traitent à des niveaux supérieurs. Ce serait équivalent à enregistrer de l'information qui ne servirait pas. Les archives universelles sont sous le contrôle des forces de la lumière dans certains secteurs, alors que dans d'autres, ils sont sous la gestion des forces involutives. Dans l'univers, le contrôle de la mémoire équivaut au pouvoir suprême. D'ailleurs, c'est pour cette raison que les entités universelles luttent constamment pour le contact télépathique avec l'homme. Il est nécessaire que des intelligences avancées s'occupent du terrestre car ce dernier doit épouser, au cours de son évolution, un mouvement qui pointe vers le retour à la source. C'est ce mouvement de retour que nous appelons conscience universelle et qui demande un enregistrement sur le plan mental de la conscience. Afin que la science des mondes parvienne jusqu'à la conscience de l'homme qui pourra, enfin, l'utiliser pour s'affranchir des mémoires astrales qui ont, par le passé, a servi sa conscience. Bernard de Montréal. Jeter un peu de lumière sur le phénomène OVNI. Réponse. Le phénomène OVNI engagera la totalité de l'humanité lorsque les responsables décideront de se faire connaître à l'échelle planétaire. Vos populations actuelles ne sont pas mûres pour ce type d'expérience et ce pour plusieurs raisons. En voici quelques-unes. Une hystérie généralisée envahirait les foules si elles étaient exposées à certains humanoïdes dont l'apparence ou la beauté est tout autre. Ces êtres proviennent de dimensions inconnues et l'influence qu'ils exerceraient sur votre Terre aurait un effet bouleversant pour les peuples qui n'ont plus la mémoire de l'existence et des sciences des populations systémiques. Ces êtres ne partagent pas votre dimension spatio-temporelle. Leurs mondes sont parallèles aux vôtres mais ils vous sont invisibles. Pour accéder à la Terre, ils doivent se matérialiser en se déplaçant de leur monde vers le vôtre à travers les vortex de l'espace. Ils voyagent dans le temps, c'est-à-dire à travers une autre matérialité temporelle. Leurs vaisseaux sont propulsés par des forces universelles qu'ils utilisent à volonté et sans effort. Certains engins atteignent des dimensions pouvant atteindre 6 km de diamètre. Ces immenses vaisseaux demeurent éloignés des globes et sont relayés par des véhicules de taille réduite. Ces êtres poursuivent une politique de non-confrontation puisque leur science devance la vôtre d'environ 40 000 ans, selon les dimensions d'où ils proviennent. Vos gouvernements reconnaissent l'existence des OVNI mais ils maintiennent le silence afin que les populations soient alertées graduellement. Les êtres extraterrestres ne se manifesteront à l'échelle mondiale qu'à la fin du XIe siècle. La présence des étrangers détruira la fondation archaïque de vos religions et le choc culturel forcera l'homme à rétablir son lien universel. Ce sera l'initiation de la Terre à la vie systémique. Les étrangers maîtrisent la matérialisation et la dématérialisation. Ils connaissent la lévitation et la télépathie. Certaines de leurs facultés sont atrophiées. Leur corps est chimique et non animal. Leur science permet de modifier à volonté les composantes matérielles de leur enveloppe physique selon le besoin. Leur esprit est égalitaire mais il peut dominer. Leur sexualité est bornée, de sorte qu'ils procréent par infantation. Ce terme signifie qu'ils peuvent former un corps matériel à partir d'énergie puisée dans l'éther de leur conscience moronciel car leur vue est interne. Ils voient dans l'atmosphère intérieure de leur être et en retirent les énergies nécessaires à la construction d'un corps matériel. Leur progéniture prend conscience d'elle-même vers l'âge de 2 ans et se libère alors de ses parents. Par la suite, elle s'intègre à la conscience dynamique de son milieu. Cette conscience varie selon son monde d'origine. La guerre n'existe pas pour eux, mais ils peuvent la faire. Ils voyagent en parcourant les corridors d'énergie qui unissent les planètes et les systèmes solaires. Ces corridors leur servent d'autoroute. Certains groupes vivent aussi longtemps qu'ils le désirent. À la mort, ils se reconstituent un nouveau corps et ainsi de suite. Les corps s'usent éventuellement car ils sont composés de matière. Leur conscience est entièrement distincte de la vôtre. Vos pensées présentent un danger pour eux car ils n'ont pas de protection naturelle contre l'aura de l'homme. Vos pensées sont contagieuses et virales. Ils doivent donc développer des mécanismes de protection contre celles-ci, mécanismes qu'ils intègrent à leurs vêtements. Puissance de certains groupes s'abstiennent de parler avec l'homme car sa parole et même sa télépathie sont une menace. Ceci explique pourquoi ils communiquent souvent par projection avec l'humain. Ils voyagent en groupe afin de ne jamais être seuls car ils ont besoin de correspondants pour demeurer éveillés dans votre champ de gravité. La gravité terrestre est une force paralysante qui nuit à leur force motrice. Lorsque le contact sera établi avec la Terre, une régence planétaire régira les rapports organisationnels entre l'homme et les dimensions systémiques. La régence sera un régime mondial ne requérant aucune participation directe des nations. Sa présence sera occulte et voilée aux masses. Les étrangers ne proviennent pas tous de la même souche. Certains sont totalement incompatibles avec vous, d'autres le sont moins. Ceux qui le sont ont déjà visité votre planète au temps des Atlantes. La conscience d'un extraterrestre semblera toujours défaillante par rapport à la vôtre car ils n'ont pas de corps animal. Leur conscience dérive de la relativité des systèmes. C'est sur ce point que différera l'évolution de l'homme de la Terre et celle des hommes de l'espace. Bernard de Montréal. L'âge du Verseau sera un âge d'information qui libéralisera l'humanité et la délivrera du fardeau de son histoire ancienne. Pouvez-vous traiter un peu cette période qui s'annonce ? Réponse. L'âge du Verseau débutera avec fracas. Le passage d'un âge à un autre ne passe pas inaperçu sur les plans systémiques où il est toujours ressenti comme une atteinte à la domination des sphères sur l'homme. La vie systémique est sournoise, ainsi que les mondes les uns envers les autres, car ils sont régis par des lois qui les différencient. Cette condition est à l'origine de la souffrance humaine. L'évolution corrigera cette condition lorsque le terrestre prendra conscience de son lien universel avec les intelligences systémiques. L'information est le début de toute liberté, mais elle doit être sans condition. Pour cela, l'homme devra être initié au mystère de sa conscience. Une telle initiation forgera un lien entre lui et les mondes parallèles. Il entreprendra, au cours du nouveau cycle, un grand développement qui labourera sa conscience et le libérera du fardeau de la mémoire de sa race. Les hommes s'individualiseront à différents niveaux et les populations progresseront à un rythme qui eût été impensable par le passé. Les forces économiques seront maîtresses et les forces politiques secondaires. Les structures sociales seront modelées selon des modèles prescrits par l'économie des nations. L'âge du Verseau verra se restreindre le pouvoir des gouvernements sur les individus. Les hommes s'affranquiront des lois illégitimes et ils invoqueront une justice à la mesure d'une conscience sociale plus avertie. Ce cycle témoignera de l'individualisation de l'être à l'intérieur du système dans lequel il évolue. La pression de groupes bien organisés contre le pouvoir des gouvernements s'accentuera, de sorte que ce dernier sera graduellement transféré aux masses. Il est approprié de dire que la période qui ouvrira le XIe siècle marquera l'humanité pour les 2000 prochaines années. Alors que le XXe siècle annonçait la fin de l'involution, le prochain siècle verra l'aube de l'évolution, c'est-à-dire la rupture irrévocable avec les traditions retardataires de la vieille humanité. La libération déjà entamée sur le plan individuel se répandra sur le plan collectif et les peuples se transformeront, de sorte que les excès du passé s'évanouiront. À l'aube de l'ère du Verseau, certaines grandes puissances viendront en conflit d'intérêts, mais les antagonismes ne dureront qu'une période limitée et serviront à forger de nouvelles ententes expurgées des conventions du XXe siècle. Celles-ci unifieront les sociétés de l'Est à l'Ouest. Le début de cette période coïncidera avec le remaniement des forces militaires sur le globe. Une entente secrète sera établie entre les États-Unis d'Amérique et la Russie visant à protéger le monde de la menace d'une troisième guerre. Les forces politiques de ces deux grandes puissances se lieront afin d'assurer et de maintenir l'équilibre dans le monde. L'âge du Verseau sera un nouvel âge sous plusieurs aspects. Les organismes humanitaires seront submergés par l'ampleur d'événements calamiteux. L'ère de la technologie engendrera de sérieux problèmes exigeants, pour être résolus, de grandes ressources intellectuelles. Les tensions sociales seront majeures car les peuples se seront adaptés à une qualité de vie dont ils ne voudront se priver. L'ère du Verseau signifiera pour l'Occident une réorganisation de son système de valeurs. L'Orient verra la redéfinition de sa mission sociopolitique. Les pays de l'Est s'impliqueront davantage dans le mouvement pan-européen et les pays asiatiques s'occidentaliseront. L'âge du Verseau introduira dans la conscience de la Terre un élément nouveau qui perturbera l'homme et le propulsera vers une nouvelle courbe d'évolution. Cet élément fixera dans sa conscience un point de référence inaliénable qui lui permettra d'évaluer les conditions de son existence. Ce facteur sera le contact officiel entre la Terre et d'autres civilisations qui reviendront vers l'homme afin d'amorcer un échange intelligent qui servira les deux parties. Le contact entre l'homme et d'autres civilisations transformera sans délai la conscience des nations. Ce que l'homme aura rêvé sans comprendre, il le comprendra sans rêver. Le choc culturel sera colossal et les conséquences pour l'humanité irréversibles. L'âge du Verseau permettra aux terrestres d'atteindre le plus haut niveau de maturité mentale jamais connu depuis la suspension de la télépathie avec les circuits universels. La conquête de l'espace sera un fait accompli et la problématique des technologies terrestres à cet effet sera corrigée. L'homme se joindra aux civilisations systémiques et sa conscience universelle lui sera redonnée. L'ère du Verseau mettra un terme à la quarantaine de la Terre qui lui fut imposée depuis des milliers d'années. L'homme apprendra graduellement à composer avec d'autres êtres et il réalisera que son intelligence est à la mesure de la vie systémique. Bernard de Montréal. Avons-nous mis fin aux guerres? Réponse. Vous serez épargné d'une troisième guerre mondiale. Le plan astral est bien équilibré, ce qui permet aux populations désincarnées d'être distribuées équitablement. Les plans bénéficient des guerres planétaires car elles offrent une source précieuse de mémoire expérimentale. L'astral s'alimente des énergies de la vie incarnée. Ces mondes sont les miroirs inversés de la vie et lorsqu'un conflit de cet ordre survient dans votre monde, les plans libèrent certaines âmes, alors que dans un même temps ils en reçoivent d'autres. Les plans ont mis fin aux recrues, c'est-à-dire que les mondes astraux regroupent une population suffisante pour assurer leur activité globale. Les populations peuvent donc convenablement exercer leurs fonctions. Cette condition épargne la Terre d'une guerre d'envergure. L'histoire astrale coïncide avec l'histoire terrestre. Ce que vous vivez sur le plan matériel reflète les conditions des sphères. Ce qui est en haut est en bas. Les quotas de population sont établis par les stations chargées de desservir les populations en constant mouvement dans l'univers local. La mort n'est pas un univers statique, mais un macrocosme dynamique qui requiert de vastes populations afin d'actualiser ses besoins. La vie est occulte et sujette à la manipulation astrale de la conscience humaine. Tant que cette condition persistera, l'humanité en sera victime et l'homme en supportera les velléités selon les engagements voilés des mondes parallèles. 151. Bernard de Montréal. Vous semblez dire que les guerres résultent de la pénurie de population astrale ainsi que de la réflexion des problèmes attenant du plan matériel. Réponse. Nous disons simplement que la guerre engendre un déséquilibre parmi les populations sur les plans astraux. Le déséquilibre qui s'ensuit entre les populations terrestres et astrales accroît le taux de maladie mentale sur la Terre car les entités astrales se nourrissent de l'homme. La guerre amplifie cette relation car un rappel trop rapide à la mort, et ce en trop grand nombre, ne permet pas aux entités de veiller adéquatement à l'arrivée des désincarnés. Ceux-ci, très souvent, arrivent en forme astrale dans des mondes inconnus sous l'effet de chocs terribles subis pendant la guerre terrestre. Ils ignorent souvent qu'ils sont morts, car leur départ du plan matériel a été soudain. Ils errent alors sur le plan terrestre et tentent de communiquer avec l'humain. Lorsque les entités sont trop confuses, elles tentent d'échapper à leur condition astrale en se souvenant de la Terre. C'est alors que l'humanité devient victime du monde astral et sujette à la maladie mentale. Vous ne comprenez pas encore le phénomène de l'imagination et n'en saisissez pas les aspects occultes. Si vous connaissiez la relation entre la mort et la guerre, vous comprendriez pourquoi il faut absolument que l'humanité évolue et cesse cette activité primitive. Bernard de Montréal. À quelle sorte de fléau pouvons-nous nous attendre ? Réponse. Surveillez la pollution sous toutes ses formes et vous vous assurerez une longévité accrue. Les systèmes biologiques font face à une pollution de plus en plus répandue. Le climat est en voie de changement car les forces magnétiques de la Terre modifient leur parcours. L'atmosphère deviendra plus instable. La pression sur les différents systèmes grandira et les gouvernements devront exercer une grande vigilance. La guerre ne sera plus votre ennemi majeur. Bernard de Montréal. Parlez-nous du lien qui unit la folie, le plan astral et les forces lunaires. Réponse. Les forces lunaires sont astrales de nature. Elles résultent d'influences de basse vibration qui ne sont ni positives ni négatives, mais sournoises. La manipulation de la conscience humaine est leur fonction principale. Elles communiquent avec l'homme par la manipulation de ses émotions. Ces forces compressent le centre émotif lorsqu'il y a souffrance chez l'être. Sur le plan cosmique, la lune est le siège de force élémentaire dont le rôle est d'attiser et de manipuler les fluides de la conscience humaine. La lune n'est pas simplement un astre matériel. Elle agit aussi en opposition à l'évolution égoïque de l'homme. Elle est sombre et interfère avec le développement ordonné de la conscience. Les forces astrales et élémentaires sont de connivence puisque le plan astral est associé à la lune par vocation. Lorsque les forces astrales ont besoin de renfort, elles font appel aux entités lunaires. Celles-ci ont la capacité de créer la chaleur ressentie par les entités lorsqu'elles se rassemblent pour élever, dans un ensemble, leurs vibrations. Cette chaleur est une des grandes forces lunaires. Son influence sur le plan matériel engendre la folie. La folie découle du lien étroit et inconscient entre l'homme et les forces astrales qui s'opposent au développement de sa conscience. Elle se renforce sous l'influence lunaire qui projette dans la conscience une sensation suffocante ou obsessive. L'obsession que l'on ressent dans un état de folie fait partie de l'activité lunaire chez l'être. Dans la mesure où ses forces sont équilibrées, l'humain en bénéficie car il peut vibrer son imagination de manière créative. Mais dès qu'il est déséquilibré, la pression lunaire s'exerce et la folie fraye lentement son chemin dans la conscience. Bernard de Montréal. Pourquoi l'homme a-t-il été créé ? Réponse. L'homme a été créé pour former, au cours de l'évolution, un relais entre les mondes de la lumière et les civilisations avancées. Sa création permettra que se forge un premier lien centralisateur entre les forces systémiques et les civilisations locales. L'univers n'est pas aussi intégré que vous pouvez l'imaginer. Les forces cosmiques et les forces systémiques ne sont pas unifiées et trop de variantes séparent les différents royaumes de la conscience. La présence de l'homme créera des liens entre les peuples et il se développera des réseaux de pensées nouvelles, permettant un plus grand échange entre des civilisations très isolées les unes des autres à cause de la nature différenciée de leur mental. Les forces psychiques de l'homme favoriseront l'unification des civilisations plutôt que leur dispersion, de sorte qu'elles se rassembleront et ceci mettra un terme à l'isolement généralisé qui crée, dans l'univers local, un problème très marqué de coordination et de gestion. Plus les civilisations sont isolées, plus elles ont tendance à se configurer par rapport à elles-mêmes. Ceci favorise une forme d'isolationnisme qui interfère avec leurs déplacements. Les peuples extraplanétaires n'interfèrent pas dans le mouvement évolutif des peuples qui leur sont inférieurs. Par contre, cette condition crée une grande distance qui freine les contacts outre mesure. Lorsque l'homme accédera à une conscience morontielle, il renversera la situation actuelle et interviendra pour un rapprochement. Il épousera ce rôle majeur au cours de son évolution psychique et scientifique. L'homme fut créé pour établir une union stable entre les forces locales et la Terre, qui est une énigme pour un grand nombre de civilisations dans l'univers local. La planète, compte tenu de ses conditions particulières, est un globe libre en ce sens qu'elle n'est pas régie directement par les forces cosmiques sur son plan temporel. Elle évolue à un rythme qui convient à son degré de conscience et le niveau de contact systémique réduit dont elle est temporairement victime. Le caractère particulier de la conscience humaine est la pensée réfléchie qui engendre l'illusion égoïque. Le fait que la pensée unit l'homme aux forces systémiques à son insu, lui permet de développer une conscience individuelle mais non individualisée, fondée sur la lumière, c'est-à-dire sur un partenariat qui, au cours de l'évolution, le libérera des contraintes planétaires, dont la mort est la plus évidente. Non seulement l'homme doit-il être libéré du retour en forme astrale, mais il doit aussi pouvoir se projeter en conscience morontielle sur les plans systémiques qui conviennent le plus à sa nature immortelle. Cette phase de l'évolution répond le plus à la question « Pourquoi fut-il créé ?» Libéré du lien astral, il réconciliera sa vie psychique à sa vie matérielle. De là, il entreprendra sa destinée cosmique fondée sur l'apport de sa conscience planétaire et systémique dans une unité de conscience en fusion. Cet état le préparera adéquatement pour le rôle qu'il devra jouer et pour lequel il fut créé. Bernard de Montréal. Pourquoi l'homme est-il si imparfait ? Réponse. L'homme est inconscient et ne peut parfaitement manifester sa conscience car il est envahi d'impressions qui l'influencent, le dominent et masquent les mouvements subtils de son esprit. Il doit son imperfection à son inhabilité à saisir du rapport occulte qui existe entre lui et les plans. Pour dépasser son imperfection séculaire, il lui faudra abattre le mur des illusions que maintiennent l'ego et son instabilité pour une réalité palpable. La matière n'est pas ici le problème, mais c'est plutôt la manière dont il traite avec elle. L'homme est endormi, de sorte qu'il ne peut comprendre la vie et, conséquemment, ne peut la vivre. Son imperfection est due au grand retard dans le développement et l'évolution de son système psychique. Pour que se développe sa nature intelligente, ses centres psychiques doivent s'ouvrir aux plans universels afin qu'une télépathie compense pour les limites, bien que temporaires, que crée l'enveloppe charnelle. Renforcé par la télépathie, l'ego comprendra et la vivra en fonction d'une conscience majorée. L'évolution de l'homme n'est pas uniquement horizontale mais aussi verticale. L'évolution verticale est la dernière et la plus difficile, car elle ne repose pas sur le pouvoir des sens mais sur un psychisme renouvelé, activé par les forces occultes de lumière qui chevauchent l'ego et impriment sur sa conscience la science de la vie qu'il doit intégrer. L'imperfection de l'homme découle de sa rupture avec le lien universel, ce lien étant nécessaire pour passer de l'inconscience à la conscience, de la conscience planétaire à une conscience plus vaste. Tant que la conscience humaine n'aura pas été élevée à un stade supérieur à celui que lui offre le plan astral, l'homme demeurera un être sous surveillance. Il ne pourra ni comprendre ni se saisir des lois occultes et vivra selon le dispositif astral de sa conscience. La conscience astrale délimite l'envergure du territoire de la conscience imparfaite. Ceci explique la raison pour laquelle l'homme ne peut établir de paramètres conformes à sa lumière. Son imperfection est un dérivé de sa conscience astrale et non un dispositif incomplet découlant d'une nature systémique non réalisée. L'homme est imparfait car le processus évolutif de sa nature est réglé en fonction d'un rythme qui ne découle pas de sa volonté propre, n'ayant pas encore réalisé son état d'être de lumière. Après l'évolution vers une conscience mentale, il reconnaîtra les aspects universels de sa conscience et déterminera la relation entre le plan matériel de son être et le plan morontiel de sa conscience globale. Ceci favorisera une conscience perfectionnée qui ne dépendra plus de la réflexion de la pensée pour évaluer la nature de l'être. Le lien universel lui servira de mesure et toute question concernant le degré de son imperfection ne fera plus partie de ses questions existentielles. L'imperfection de la conscience humaine est une conséquence des éléments astraux qui prohibent, chez l'homme, tout développement de conscience autre que celui que lui offre la réflexion de la pensée. Tant que la télépathie avec le plan mental ne sera pas réalisée par le mortel, sa conscience demeurera expérimentale, c'est-à-dire que le moi planétaire ne pourra comprendre la relation directe avec un moi universel susceptible de l'instruire de la science de la vie. Pour comprendre les lois occultes de la vie, il lui faudra communiquer par télépathie avec un plan dont la nature est universelle et non divisionnaire. Tant que l'homme vivra selon une conscience astrale, sa conscience sera divisée selon les lois occultes de l'astral qui répondent aux besoins de l'âme au lieu de la réalité de l'esprit. Bernard de Montréal. Son imperfection sert-elle une forme de politique cosmique voilée ou lui sert-elle à se libérer d'une destinée liée au karma planétaire? Réponse. L'imperfection de l'homme découle de son lien inconscient avec le plan astral. Sa conscience est conditionnée par ce plan dont l'activité se résume à interférer avec le processus d'individuation. Le plan astral déforme la réalité humaine et incite l'homme à jouer un rôle qui sert la politique des sphères. S'il était télépathe ou conscient, une telle infiltration de sa conscience serait impossible. La vie matérielle serait la manifestation même de sa lumière dans la forme, éclipsant ainsi toute domination qui découle de la politique des sphères. L'évolution dépend de la libération de l'emprise astrale et de la politique qui en découle. Mais elle coïncide, en plus, avec le développement de la conscience mentale qui rendra l'homme libre des forces qui chevauchent son esprit enraciné dans la mémoire de la race. La politique des sphères est une condition de l'involution car la nature humaine n'est pas suffisamment évoluée pour qu'un terme soit mis au lien occulte avec la mort. La mort est une sphère politique qui définit la relation entre le mortel et les plans de vie subliminaux qui se nourrissent de ses émotions et de ses pensées subjectives pour établir sur la Terre leur suprématie. Les morts sont organisés à un point où toute révélation de leur empire équivaut à la dilution graduelle de leur pouvoir sur l'homme. Voilà pourquoi il lui faudra développer une télépathie avec les circuits universels, afin de contourner les réseaux astraux et instruire l'humanité de la déformation de toute conscience qui découle de la politique des sphères. Cette politique est sous le contrôle absolu de forces qui évoluent à l'extérieur des limites de la mort dans des espaces réservés à des civilisations qui n'éprouvent pour le mortel qu'un profond dédain. Ce dédain repose sur la haine qu'ils entretiennent face à la relation particulière qui unit l'âme humaine et les forces de la lumière. C'est pour cette raison que la mort, ou le plan astral, représente une forteresse à l'intérieur de laquelle les forces involutives dispensent librement leur politique contre l'homme, car dans la mort les désincarnés sont voués à leur service. L'homme découvrira que la relation entre l'âme et l'esprit est la seule sécurité à long terme pour une vague de vie qui ne contrôle pas encore sa destinée, à cause de l'inactivité de la vision éthérique qui permettrait à l'être d'intervenir dans le processus de sélection de la planète sur laquelle il désirerait évoluer. Les mondes ne sont pas aussi séparés et inaccessibles que ne le laissent croire les limites sensorielles actuelles. La conscience future corrigera le degré d'aveuglement qui découle de l'astralisation de la conscience. La politique des sphères est trop occulte pour le commun des mortels car elle est inscrite dans la nature même de la conscience astrale. Pour que l'homme la comprenne, il lui faudra réaliser jusqu'à quel point la conscience humaine est empreinte de pensées qui n'ont aucune relation avec la source de sa nature située sur le plan mental systémique. L'ignorance de la conscience ne peut être éclipsée par la sophistication de l'intellect. Vous croyez que la faculté de penser vous octroie, par le fait même, une qualité mentale vous permettant de vous considérer comme des êtres intelligents dans le sens systémique du terme. Regardez votre histoire et ses motifs et vous comprendrez pourquoi l'erreur fondamentale de la conscience planétaire débute avec toute perception qui nie la division de la réalité en un plan astral et un plan mental non réalisé. Bernard de Montréal. Pourquoi la vie est-elle régie par le mensonge? 155. Réponse. Le mensonge reflète l'inconnu et son abolition mène vers le connaissable. La vie ne peut être comprise sans l'évolution du mental. Elle est trop vaste et demande que l'homme puisse en saisir les contours occultes au fur et à mesure où il développera les outils nécessaires à sa compréhension. La division des mondes est due à l'incapacité temporaire de la conscience à traverser les espaces psychiques séparés par les parois universelles ou plans de conscience. La vie est trop étendue pour être comprise intellectuellement, mais elle peut être comprise par télépathie avec les circuits universels. Une telle expérience veut que le taux vibratoire de la conscience évolutive s'élève au-delà de celui de l'involution. Les parois de l'espace psychique seront franchies lorsque l'homme aura pleine conscience et qu'il abolira le pouvoir des forces occultes qui le manipulent. Les forces occultes, qu'on en soit conscient ou non, sous-tendent la réalité humaine de sa relation avec l'invisible. Tant que l'homme n'aura pas le contrôle sur ses forces et leurs influences sur son moi planétaire, il ne pourra franchir les différents espaces psychiques. Il continuera à être dominé dans sa nature humaine par les forces non émancipées de l'âme. La mort est un phénomène spatio-psychique qui entraîne l'ego dans un mouvement de conscience à l'inverse de son mouvement créatif. Ce dernier ne peut percevoir la réalité par rapport à ce qu'il contemple sur le plan psychologique de sa conscience planétaire. Voilà la raison pour laquelle la conscience du mortel doit être transmutée, afin qu'il ait suffisamment de lumière pour se libérer des chaînes de la crainte qui sont la cause de son refuge dans la matérialité au lieu de l'esprit. La vie est régie par le mensonge, de sorte qu'elle domine la conscience au lieu d'être dominée par elle. Au cours de l'évolution, l'homme dominera la vie. Il saura conquérir les espaces psychiques qui constituent ses bornes réelles. Pour saisir et comprendre la nature occulte des illusions, il lui faut avoir une conscience occulte des forces agissantes derrière la forme. L'homme est un géant qui dort et ne se connaît pas. Il doit prendre conscience de sa mesure avant de pouvoir comprendre la vie et s'en sortir conscient, donc victorieux. Tout ce qui nourrit la conscience du terrestre est une forme quelconque de mensonge car ce dernier est prédisposé culturellement à se nourrir de l'extérieur. Tant que l'homme ne réalisera pas qu'il est créatif, donc un être de lumière pouvant savoir, ses émotions subjectives le trahiront et le forceront à chercher à l'extérieur de lui-même un appui qui renforcera son illusion d'être seul dans sa conscience. En réalité, l'homme n'est pas seul avec lui-même. La dimension psychique de son être offre d'autres configurations. Dans la mesure où il s'oublie, il s'appartient. Dans la mesure où il disparaît, il apparaît. Dans la mesure où il oublie, il se rappelle. C'est à ce moment de la vie intime de l'ego que l'on retrouve la nature véritable et que l'on reconnaît que l'homme est libre du mensonge lorsqu'il ne cherche plus la vérité polarisée. Le mensonge est une étape qui précède la science des sphères car il force l'homme à éliminer, graduellement, les illusions de sa conscience expérimentale et planétaire. Il ne s'agit pas pour lui de croire que sa science matérielle est une porte d'entrée dans la conscience du temps laquelle est simplement une manifestation karmique de l'intelligence. Ce n'est pas par elle qu'il se libérera du mensonge cosmique. Au cours de l'évolution, le terrestre réalisera que la relation entre le temps et l'espace est fondée sur la juxtaposition de ces plans subtils dans un ordre qui lui permet d'intégrer la notion de la mort avec celle de la vie systémique. Mais pour qu'il en vienne à comprendre le phénomène de la vie à la mesure de son intelligence réelle, il lui faudra passer à une autre étape d'évolution psychologique où l'ego fera face à la réalité du mental supérieur. Le mensonge cosmique, dans ses formes les plus bâtardes comme dans ses jeux les plus subtils, fait partie des conditions qui donnent à l'évolution sa direction. Dans la mesure où la conscience s'épanouira, le mensonge disparaîtra pour laisser place à une science intégrale issue d'une conscience moronciale dont les assises sont actuellement en développement. L'histoire de la science reflète la réduction graduelle du mensonge à l'échelle planétaire. Il en sera de même pour les plans systémiques et occultes. Bernard de Montréal. Veuillez nous définir la réalité au-delà de la vie matérielle. Réponse. Au-delà de votre plan de vie matérielle, la réalité se fond au mouvement illimité de la conscience qui se moule à des formes convenant à son esprit. Lorsqu'un être conscient abandonne son enveloppe matérielle, il est en pleine conscience individualisée, de sorte que son esprit s'enregistre au-delà des confins du corps matériel. C'est en raison de cette condition qu'il passe du plan astral au plan moronciel. Lorsque nous disons que son esprit s'enregistre, nous signifions que la conscience de l'être ne passe plus à celle du plan astral qui équivaut à une forme de rêve. Un esprit qui s'enregistre est en pleine possession de sa lumière, ce qui n'est pas le cas dans l'astral de la mort. Au-delà du plan matériel, la vie est multiple et varie selon le niveau d'évolution des consciences ou des âmes. Un être conscient peut opter pour une vie qui lui permet de travailler dans un domaine spécifique. Pour bénéficier d'un tel choix, il lui faut avoir conscience de la vie qu'il vient juste de quitter. La vie au-delà de la mort n'implique alors que la réorganisation de son moi sur un plan plus subtil, mais aussi réel que celui qu'il vient d'abandonner. Il n'y a pas de mort pour les morts. Elle n'existe que pour les vivants. Par contre, les morts n'ont pas tous accès au registre systémique de la vie puisqu'ils n'ont pas tous le niveau de conscience nécessaire pour y accéder. Voilà la raison derrière l'évolution. Au-delà du plan matériel, la vie nouvelle dépend du système à l'intérieur duquel vous évoluez. En forme astrale, la vie est passive, alors qu'en forme moronciale elle est aussi dynamique qu'elle peut l'être sur le plan matériel, avec cette différence que la conscience ne se véhicule plus dans un corps solide. Vous pouvez avoir une idée passagère de la vie au-delà de votre plan en vous rappelant certaines activités très claires et graphiques dans le monde astral du rêve. Vous êtes là mais dans une condition matérielle différente de ce que vous reconnaîtrez à l'éveil. Cependant, si votre conscience éthérique était suffisante et vous auriez, alors que vous vivez dans la matière, une idée précise de la vie après la mort de l'enveloppe matérielle. Cette condition vous est, en général, voilée afin que l'âme soit le plus possible imprégnée d'impressions matérielles. Si l'âme était trop imprégnée d'impressions éthériques au cours de son incarnation, beaucoup de ce qu'elle doit expérimenter dans la vie lui serait retenu et ceci retarderait son évolution car elle a besoin d'un certain aveuglement pour avancer. Sur le plan éthérique de la conscience, les mondes systémiques convergent car la vie moroncielle est un champ de conscience qui irradie dans toutes les directions. C'est sur le plan éthérique que le lien entre le mortel et l'ajusteur de pensée se consacre et fait de l'homme un être cosmique, un être sans frontières. La mort astrale est une frontière en soi alors que le passage à la conscience moroncielle est une libération à la fois de la vie astrale et de la vie matérielle. Une conscience moroncielle ne retourne plus à la matière puisqu'elle a dépassé toutes les formes d'expérience qui auraient pu la ramener au plan astral. Il ne faut pas mettre trop d'importance dans la mort astrale. Il n'est pas désirable de s'imaginer qu'elle fait plus partie de la vie qu'il ne le faut. À un certain point sur la courbe de l'évolution, l'homme découvrira les lacunes de la vie inconsciente et il verra qu'elle ne convient plus à une conscience éveillée. L'inconscience se retirera et la vie moroncielle commencera son cycle d'évolution. Lorsque la conscience de la vie moroncielle sera établie, le taux vibratoire altérera la conscience des cellules et l'homme cessera de vivre en tant qu'animal intelligent. Il vivra plutôt comme un être conscient d'une condition dont il réalisera profondément les limites. L'homme commencera à se faire une idée de la vie au-delà de la matière lorsque son mental se sera élevé en vibration. La conscience des cellules étant altérée, la conscience du moi deviendra ascendante. À ce point sur la courbe de l'évolution, son regard changera, sa conscience n'étant plus alourdie par les sens. L'ouverture que lui créera le contact télépathique avec le plan mental deviendra pour lui le point référentiel de sa nouvelle conscience. Le lien entre le corps matériel et l'âme est la cause de la difficulté qu'a l'homme de s'imaginer la vie au-delà de la mort. Son esprit n'est pas suffisamment éveillé pour passer facilement du plan astral au plan mental, de sorte qu'il demeure toujours prisonnier de ses sens. Ne pouvant laisser derrière lui, à volonté, son enveloppe matérielle, il lui est difficile d'échapper aux contraintes de la matière pour étudier les conditions d'une vie ailleurs. Au cours de l'évolution, la conscience des cellules sera suffisamment avancée pour qu'il puisse supporter la dissociation de son corps éthérique sans conséquence pour sa vie matérielle ou psychique. Il entrera alors dans une ère où l'inconscience de l'ego sera remplacée par la présence du double sur le plan mental. Cette condition créera de grands changements dans la conscience humaine et l'homme verra la mort autrement. Elle ne représentera plus pour lui de scission dans sa conscience et l'ego involutif ne sera plus un obstacle à la concrétisation du mouvement de la lumière sur le plan matériel. Au-delà de la matière, la vie des mondes est semblable à la vie sur la Terre bien qu'elle soit différente dans sa réalité intrinsèque, les dispositifs de reconnaissance ou de perception étant altérés par le fait que l'âme ne dispose plus des mécanismes animalisés de la conscience terrestre. Au-delà de la matière, l'esprit est à la fois une force en mouvement et l'âme, une mémoire figée dans un passé que seul l'esprit peut libérer. Pour que cette libération ait lieu, l'ego doit, avant la mort ou la dissociation finale des enveloppes subtiles, avoir conscience de son lien universel qui lui permettra de poursuivre son entretien conscient avec les plans systémiques. L'ego est alors manifesté, c'est-à-dire conscient de son lien universel avec l'ego cosmique ou l'ajusteur de pensée. Un ego manifesté est une conscience globale qui se détache naturellement de la mémoire de la race pour embrasser une mémoire plus vaste qui correspond à la nature du moi systémique. La vie évolue sur les plans, qu'elle soit en forme astrale ou en conscience moroncielle. Mais les mondes diffèrent des plans lorsque la vie passe du stade astral au stade mental car l'accès au monde systémique requiert une capacité de voyager librement dans le temps. Ce que l'âme en forme astrale ne peut faire en raison des limites inhérentes à sa nature. Lorsque l'âme est suffisamment évoluée pour s'unir à l'ajusteur de pensée à la sortie du corps matériel, elle peut voyager librement dans les espaces systémiques et se libérer de la quarantaine qui lui est imposée par la mort. Libre des restrictions systémiques face à ses déplacements dans l'univers local, elle peut alors renaître cosmiquement parlant, c'est-à-dire être immortelle en conscience. Elle dispose alors des conditions nécessaires pour ne plus appartenir à l'évolution de la Terre. La différence entre les plans et les mondes est fondamentale pour la compréhension de la métaphysique des sphères. Les plans sont à l'évolution des âmes ce que les mondes sont à l'union de l'âme et de l'esprit dans une dynamique de conscience en fusion qui fait partie de l'alliance renouvelée entre le mortel et sa contrepartie universelle. Dans ce dernier cas, le karma est inexistant et l'âme est libre de voyager dans le temps, la nature de sa conscience étant altérée, c'est-à-dire élevée à un plan moroncielle qui correspond aux conditions de la vie systémique. Bernard de Montréal. Le mensonge est une stratégie bien gardée. Pourquoi est-il si important? Réponse. Il y a différents niveaux de mensonges et différents plans de conscience mensongère. Un homme en contact avec le plan astral vit le mensonge d'une manière, alors que s'il était en contact avec le plan mental, il le vivrait dépendant de l'entité avec laquelle il serait en communication. D'une manière ou d'une autre, le mensonge est une insulte à son intelligence. Par contre, il ne reconnaît pas aisément le caractère astral de son moi ou de son ego, de sorte que le mensonge ne représente pas toujours pour lui un désavantage. Si le mensonge n'existait pas, il n'y aurait pas de raison pour l'âme de s'incarner puisqu'elle aurait accès à une connaissance infuse lui permettant d'agir sur le plan matériel avec le même degré de conscience qu'elle exercerait sur un plan subtil avancé. Ainsi, le mensonge fait partie de la stratégie des forces de vie œuvrant à la faire évoluer, afin que l'homme dépasse les conditions planétaires de sa nature inférieure. Chez les initiés du Verseau, le mensonge, pour la première fois, sera une condition qui mènera inexorablement à une rébellion psychique contre les forces occultes. Mais, même ici, il aura servi à créer chez ces êtres des conditions de vie mentale robustes qui empêcheront, à l'avenir, la magnétisation des corps subtils de l'homme lors de matérialisation paranormale. Un être ne peut comprendre la réalité des systèmes parallèles sans avoir été éprouvé par le mensonge. C'est au cours de telles expériences déchirantes que les éléments de croyance faisant partie des réflexes psychologiques de l'ego sont suspendus et que l'homme mortel peut enfin travailler sur un pied d'égalité avec les immortels de son rang. Un terrestre en contact avec une matérialisation ne peut supporter la lumière et le taux vibratoire d'une telle présence et échanger avec elle dans un équilibre parfait s'il n'a pas été auparavant éprouvé par le mensonge qui est le test suprême de la résistance de l'homme contre la vérité et ses croyances, donc contre la vérité et ses fabulations. Tant qu'il peut être ébloui par la vérité, il peut être assujetti à la magnétisation de ses corps subtils au moment d'un contact occulte, la dimension psychique de son moi n'étant pas soudée à la dimension psychologique de son ego. L'ego de l'homme exprimant la limite territoriale du moi psychique, c'est lui qui doit prendre le contrôle lors d'une matérialisation et en détenir le pouvoir de redressement. S'il n'a pas été suffisamment entraîné à se méfier de la vérité ou de la manifestation d'une lumière astrale ou éthérique, il ne peut transcender sa nature spirituelle et apparaître cosmiquement sur le plan matériel. Il est alors assujetti aux anciennes lois occultes de la vie planétaire et il se verra, conséquemment, porté à créer un système de pensée qui annulera le rôle individuel de l'homme face à la grandeur des systèmes de vie d'outre-espace. L'homme avancé doit voir le mensonge comme un test lui permettant de se libérer de l'invisible et de ses magies. De cette manière, il entrera dans un nouvel âge où la duperie occulte qui donna naissance aux religions et aux différents systèmes de pensée terrestre sera, pour lui, révolue. Le mensonge est une retenue d'informations qui force l'homme à se protéger au maximum des agendas occultes de la vie. Toute conscience en évolution doit maximaliser son contrôle sur les forces occultes afin de devenir elle-même lumière. Sinon, la relation entre l'homme et les plans en est une de subordination. Plus le mensonge sera aboli dans la conscience humaine, plus l'homme sera libre car l'illusion interrompt la relation moroncielle entre l'âme du mortel et l'ajusteur de pensée au profit des égrégores de la vie astrale. Il faut se rappeler que l'âme domine l'ego tant que ce dernier n'a pas pris conscience de son lien universel. Le mensonge sera alors graduellement remplacé par une liaison intelligente et intelligible qui permettra à l'homme de ne plus souffrir de lois occultes de la vie. Bernard de Montréal. Pendant l'involution, les hommes ont parlé de vérité et l'ont recherché, s'enlisant constamment dans le mensonge. Au cours de l'évolution, ils parleront du mensonge et tenteront de le mettre à jour. Veuillez élaborer sur ce point. Réponse. Si les idéologues avaient tenté d'étudier le mensonge au cours de la courte mais douloureuse histoire de la Russie, ils auraient convenu que la nature du mal est foncièrement liée à l'incapacité de vouloir en faire l'étude. Tant que les hommes ne pourront étudier le mensonge sur toutes ses facettes, ils ne pourront professer d'une conscience libre, car le mensonge éteint dans le mental humain le pouvoir de la lumière. Elle seule, en tant qu'énergie pure, permet à un individu d'élever son taux vibratoire et d'engendrer dans les mondes parallèles des mouvements de vie et de conscience qui convergent au lieu de diverger de sa réalité. Pour qu'une matérialisation unifie à un niveau supérieur l'expérience humaine, il faut que l'être soit suffisamment indépendant d'esprit pour que ce phénomène puisse lui bénéficier et bénéficier à l'humanité. Sinon, le contraire se produit. La vie mentale et psychique de l'ego conscient doit être robuste pour qu'il conserve son identité lorsqu'il vient en contact avec des formes de vie étrangères à son expérience. Il est évident à tout être avancé que la nature du cosmos est irréconciliable avec les notions terrestres qui découlent de l'inconscience de sa race. Pour bénéficier du contact avec les mondes parallèles, l'homme doit être libre de la conscience de la Terre. Celle-ci a pour lui un grand attrait quand il est inconscient, mais elle le perd graduellement au fur et à mesure où il prend conscience des mondes parallèles. La vie, dans son ensemble, n'est pas ce que vous croyez. Plus vous apprendrez à traiter avec le mensonge de manière intelligente, plus vous vous rendrez libre face aux forces occultes de la vie et plus vous en serez libre sur tous les plans. Si le grand initié de l'involution, Jésus de Nazareth, avait connu les lois du mensonge cosmique, il ne serait pas mort sur la croix. Il aurait contourné et dominé les forces occultes qui créaient en lui sa grande puissance spirituelle ainsi que son illusion planétaire au principe de l'amour divin. Cette puissance aurait été retournée contre les forces occultes et l'homme aujourd'hui serait plus intelligent de la réalité systémique. Mais le principe astral de l'amour devait être transmuté avant que n'advienne ce temps. Maintenant qu'il est transmuté sur la Terre, à une échelle embryonnaire, l'homme est libre, cosmiquement, du mensonge, mais il ne l'est pas encore sur le plan planétaire. Il y va de sa propre évolution personnelle de le devenir. C'est ce que nous appelons la domination de l'homme sur les sphères astrales de sa conscience. Au cours de l'évolution, l'homme sera à l'affût du mensonge comme jamais auparavant. Il comprendra que la relation équilibrée entre le plan astral et le plan mental demande que l'ego soit totalement éveillé à la réalité de l'agenda occulte qui est la fresque cachée de la moindre des vies humaines. Tant que l'homme n'aura pas pris conscience de sa relation avec le plan mental, il ne comprendra pas le caractère occulte du mensonge, car il n'en distinguera pas tous les aspects. Bernard de Montréal. Le mensonge cosmique tire ses racines de l'inhabilité des plans parallèles à se libérer du pouvoir qu'ils exercent sur les formes de vie qu'ils chevauchent, étant donné la nature actuelle de la pensée. Les plans n'ont pas encore réussi à créer de nouveaux réseaux de conscience libre puisqu'ils ne savent pas comment engendrer de l'esprit pur. Commentez ce sujet intéressant. Réponse. En effet, les plans parallèles sont perturbés par le moindre détachement des consciences qu'ils chevauchent, les liens occultes entre eux et la Terre n'ayant jamais été contestés. Pour qu'il y ait contestation de ces liens, l'être avancé devra réaliser que la nature de la conscience humaine est supérieure en tout point, face à l'invisible. L'homme devra prendre conscience que ce nouveau mouvement de l'esprit n'a que tout dernièrement eu lieu. Ce revirement du rapport entre le plan matériel et les plans subtils est un phénomène naissant dans l'univers local et il sera associé avec un phénomène nouveau à qui l'on donnera le nom de fusion. Ce processus révolutionnera les rapports entre l'homme et les forces occultes. La fusion, et ses conséquences à tous les niveaux, est en voie d'étude dans les mondes parallèles et ils en seront pour toujours transformés. L'évolution n'est pas seulement pour les hommes mais aussi pour les sphères. Le mensonge cosmique est une condition de la vie qui doit être renversée et lorsque ce retournement aura lieu dans la conscience, l'homme accédera à un palier de l'intelligence qui l'invitera à travailler directement avec les forces occultes. Avant que cet événement fasse partie de l'expérience humaine, il sera nécessaire qu'il subisse une transformation radicale de sa conscience planétaire, car cette dernière est régie par de très anciennes lois de l'univers local. Lorsque ces lois seront abolies, l'homme épousera une nouvelle destinée fondée sur le pouvoir créatif de sa conscience et non plus sur l'expérience aveugle de l'âme incarnée selon une programmation astrale. Pour que le mensonge cosmique soit écarté de la conscience humaine, les réseaux universels devront entreprendre une rééducation de l'homme par voie télépathique, afin de le libérer de sa conscience involutive qui fut fondée sur le mouvement subjectif et obscur de la pensée. Cette condition a enchaîné l'espèce dans une conscience dont la valeur intrinsèque dépend de la mémoire de la race. Tant que la conscience humaine meurera liée à la mémoire de la race, l'homme ne pourra reconnaître chez lui la nature universelle de son intelligence, car il n'aura pas reconnu le lien télépathique avec son moi systémique et il demeurera une entité biologique sans précédent universelle, c'est-à-dire qu'il ne pourra altérer à volonté son rapport avec les forces de vie qui sous-tendent sa réalité. Pour que les réseaux universels engendrent sur la Terre de l'esprit pur, l'homme doit être, par voie télépathique, averti de la nature mensongère des stratégies utilisées par les forces de vie qui évoluent au-delà de son plan matériel. Il doit comprendre que le mensonge cosmique n'est pas une condition amorale de la conscience, mais une condition cosmique qui engendre et perpétue l'ignorance des systèmes universels sur la Terre. Cette condition cosmique d'inconscience terrestre est responsable de la condition humaine que les penseurs ont depuis toujours tenté de comprendre et d'expliquer sans succès. L'esprit pur est une condition de l'évolution rattachée à la manière dont se traite l'information. Il ne faut pas perdre de vue que le contrôle de l'information, à quelque niveau de vie que ce soit, équivaut au pouvoir. Sur le plan occulte de la conscience, les forces qui contrôlent l'information ont ascendance sur les autres consciences. C'est pourquoi le développement de l'esprit pur, c'est-à-dire l'accès inconditionné à l'information systémique, correspond à ce que vous appelez l'évolution. La science est un corollaire de cette condition. L'esprit pur est l'affranchissement d'une forme de mémoire qui a servi dans le passé à maintenir une race ou une conscience dans l'ignorance, c'est-à-dire dans une condition qui ne favorisait pas le développement de l'esprit pur. Un pur esprit est une entité de haut statut dans la hiérarchie cosmique qui domine par sa capacité d'engendrer le mensonge en manipulant l'information. Les purs esprits ne sont que des dominations qui exercent un rôle de supervision tant que les espèces supervisées cessent d'être sous la surveillance de ces intelligences. À partir de ce stade dans l'évolution des vagues de vie, un meilleur agencement d'esprit pur se manifeste et ceci résulte dans un mouvement évolutif où une rupture radicale avec le passé s'établit. L'homme développera sur la Terre un esprit pur lorsqu'il comprendra que la relation entre l'invisible et le plan matériel est sans séparation et que cette relation est ouverte, c'est-à-dire accessible dans la mesure où le mental humain se détache de la mémoire de la race pour épouser une mémoire plus vaste et plus universelle à laquelle nous donnons le nom de mémoire systémique. C'est l'accès à cette mémoire qui le libérera de la mort astrale et de l'espace matériel dans lequel il évolue. Il deviendra alors un être de l'espace, c'est-à-dire un être pouvant manipuler les énergies cosmiques qui sont à l'origine de l'univers local. Les forces systémiques ne savent pas comment engendrer de l'esprit pur chez l'homme si ce dernier ne participe pas à l'évolution d'une telle entreprise, la nature de l'esprit étant dépendante de la relation entre l'âme et la lumière. Dans la mesure où l'âme est évoluée, elle peut travailler directement avec la lumière. L'ego peut alors supporter la pénétration du rayon de la création dans son mental. À partir de ce moment dans l'évolution de l'homme, la réconciliation avec la vie s'installe et l'esprit pur prend racine chez l'homme. Le mortel reconnaît sa conscience éveillée et les forces obscures doivent lui obéir. Bernard de Montréal. Au cours de l'évolution, l'esprit et les assises de la pensée de l'homme se transformeront. Un nouveau registre mental se formera et un nombre grandissant d'êtres réaliseront que la conscience peut être expérimentée au-delà des confins de l'ego solitaire. Veuillez développer sur ce sujet d'une manière simple et compréhensible pour la conscience contemporaine. Réponse. Plus l'homme évoluera en conscience, plus la civilisation planétaire se distancera des manières archaïques de la pensée et plus il y aura d'ouverture dans le mental pour l'expression de concepts qui traiteront de la réalité au-delà des conventions. L'homme saisit difficilement la réalité derrière les concepts qui ne sont pas issus de sa conscience subjective inférieure ou développée par son ego. Mais un nouveau seuil sera traversé dans l'avenir et il grandira en stature. Lorsque la mémoire de la race cessera d'avoir pour lui l'importance qu'elle eut durant l'involution, il dirigera son attention vers des registres plus élevés de la conscience. À ce point, il sera forcé de réaliser que l'accession à des connaissances fondamentales requiert qu'il traite et intègre des concepts qui submergent sa conscience égoïque sans qu'il ait à les structurer lui-même comme il le fit dans le passé. La réalité a une limite seulement lorsque l'ego cherche à la confiner et elle est un processus illimité qui ne dépend que de la capacité de l'homme à se libérer du passé ou de la mémoire de sa race. Il y a plus à la conscience que de la simple mémoire. L'esprit humain possède un avantage unique, celui de pouvoir identifier la connaissance à son point d'origine s'il se détache de l'importance ordinairement accordée à la connaissance même. Lorsqu'il se libérera de l'illusion de la forme et qu'il prendra conscience de son lien universel, il canalisera ou formalisera des concepts qui ne feront plus partie de la mémoire de sa race. Il instruira alors l'humanité de notions qui la libéreront de son lien avec le passé et la prépareront au contact éventuel avec d'autres niveaux de conscience et d'intelligence. Il est déjà su et fortement anticipé que l'homme développe des systèmes mécaniques qui permettront aux entités astrales de pénétrer le plan matériel avec facilité et sans danger pour le mortel. Déjà, les entités dans le monde de la mort prévoient le temps où elles pourront entrer en communication avec lui sans risquer de mettre en danger leurs conditions. Il existe des plans qui cherchent, par tous les moyens possibles, à créer des corridors à l'intérieur desquels différentes races pourraient voyager et se rencontrer. Ceci fait partie des projets à l'échelle de l'évolution. L'homme travaille à son niveau dans son inconscience, alors que d'autres ordres d'intelligence travaillent également à leur niveau, mais dans un cadre de conscience avancée qui leur permet de construire des systèmes supérieurs de pensée qui serviront à l'évolution de l'homme de la Terre. Chaque race dans l'univers, quel que soit son plan ou niveau d'évolution, travaille en relation avec d'autres afin de créer des réseaux et des passages dans le temps qui faciliteront l'échange des expertises locales. Pour que de telles conditions fassent partie de la conscience de la Terre, il faudra que l'homme prenne conscience de la relation intime entre son plan mental et les mondes extérieurs dont il n'a conscience qu'à travers l'imagination et le rêve. Viendra le temps où la conscience humaine se détachera finalement de son navire matériel, le corps, dont l'identité est intime liée et façonnée par l'ego. À partir de ce moment, l'accession aux archives universelles sera réalisée sur le plan humain. Ceci marquera le début de la conquête des mystères. L'esprit exprimera son mouvement sur les plans subtils et ceci constituera, en réalité, la fondation même de toute conscience libérée du connu. Les civilisations du cosmos sont avancées, car elles ont perdu la mémoire de la race qui représente le premier mouvement de toute conscience en évolution. Le déchirement que vous expérimentez aujourd'hui dans votre civilisation et que vous expérimenterez au XIe siècle est un signe avant-coureur de cette libération. Pour devenir véritablement une civilisation spatiale, vous devrez vivre votre apocalypse et vous libérer de vos démons, c'est-à-dire de votre astralité planétaire qui découle de la mémoire associée à vos races. Évitez les pièges que posent vos religions politisées ou les souricières de vos politiques élevées au statut de religion. Bernard de Montréal. Voulez-vous dire de l'astralité planétaire qu'elle épouse toute forme consciente ou inconsciente de relation avec des entités astrales qui se nourrissent des émotions de l'homme et font de lui un être sans identité? Réponse. L'homme ne pourra faire face aux intelligences systémiques sans impunité tant qu'il n'aura pas compris que la relation entre lui et les puissances parallèles dépend de sa capacité 163 d'annuler l'influence des forces astrales sur sa conscience. Les civilisations spatiales ont atteint différents degrés de développement dont tous sont supérieurs à celui de l'homme. Par contre, il existe sur la Terre des êtres dont la nature transcende la conscience de la race et qui ont le pouvoir de mettre en relation les hommes de la Terre et ceux qui viennent d'ailleurs. Nous espérons que les siècles à venir permettront à l'homme de conquérir, non seulement l'espace sidéral mais aussi son espace intérieur. Ceci se produira lorsque la conscience humaine se libérera des forces astrales qui ont depuis toujours conditionné l'intelligence en fabriquant des illusions qui provoquaient la guerre et la division. L'homme ne peut grandir s'il ne comprend pas ceci et s'il ne fait pas en sorte de se libérer de son passé astralisé. L'humanité est fortement endettée vis-à-vis le karma des nations. Bernard de Montréal. À la fin d'un millénaire, l'humanité évalue sa condition. Le concept du millénaire et des anxiétés qui s'y rattachent est-il valable? Dans le cas affirmatif, à quoi pouvons-nous nous attendre? Réponse. Lorsqu'une civilisation passe le seuil d'un millénaire, son esprit est mis en vibration et confronte ou simplement s'adapte à un nouveau cycle. L'homme ne peut se dissocier totalement d'une telle signature, que ce soit à l'échelle d'un millénaire ou d'une fin de siècle, sans espérer le meilleur ou craindre le pire. Il est sensible mais ne comprend pas les mécanismes internes de son esprit, de sorte qu'il tente, par association et identification, de saisir le contour mythique de sa réalité contemporaine pour en faire la lecture. La dégradation des valeurs à la fin d'un cycle coïncide avec la métamorphose des forces biométriques de la civilisation qui représente le pouls du corps psychique de l'humanité. Cette masse d'énergie accentue facilement la perception qu'un millénaire ou que la fin d'une période cyclique est une porte d'entrée pour toutes les formes du mal ou du bien, selon l'interprétation de ceux qui en évaluent les données historiques. Lorsqu'une civilisation est au seuil d'une nouvelle période, cela lui permet, véritablement ou non, de ne plus commettre les erreurs du passé et d'évaluer les événements contemporains en tant que partie d'un échiquier qu'elle n'a pas encore maîtrisé. À savoir si le millénaire engendrera des événements positifs ou négatifs pour l'humanité dépend de la manière selon laquelle les hommes en interpréteront la réalité. La réalité en fonction d'un déterminisme universel à une échelle, à ce stade-ci de l'évolution, qui dépasse la compréhension humaine. Lorsque l'homme célébrera la fin du millénaire, il réalisera que la sommation des forces actives de sa civilisation va correctement dans la direction de son esprit. Si son esprit est guerrier, il y aura guerre. S'il est ou s'il tend au pacifisme, il y aura paix. S'inspirer des débris du dernier cycle afin d'interpréter le prochain est un exercice futile, car l'évolution n'est pas fondée sur le passé mais sur la manière dont le présent est exécuté. L'idée voulant que le passé se répète est une manière myopique d'interpréter les événements du passé qui ont été une source de crainte et de souffrance. Si l'homme était conscient ou télépathe, il réaliserait que l'histoire se meut inexorablement vers l'avenir. Sa conscience lui permettrait de voir qu'il abolira la guerre et qu'il créera une forme de gouvernement planétaire qui encouragera les individus à collaborer avec une autorité centrale qui distribuera les fruits du travail de manière équitable. Ce mouvement se situera au début des années 2060, suite à des visites remarquables de la part de civilisations extérieures qui s'impliqueront plus que jamais dans la dynamique de la politique planétaire. Ceci annoncera non simplement un âge nouveau, mais aussi un nouveau potentiel pour l'humanité qui eût été inimaginable quelque temps auparavant. Il est à noter que la destinée de la Terre n'est pas entre les mains des hommes mais d'hommes supérieurs qui, dans le passé, furent considérés comme des dieux. Une fois cette illusion fracturée, un nouvel âge naîtra sur votre planète et l'humanité ne sera plus isolée parmi tant d'autres mondes. De nouvelles percées dans le domaine de la science permettront de conquérir les maladies. Une étude remarquable de la génétique déclenchera dans le monde une nouvelle vague de recherche qui mènera à la conquête de la plus grande cause derrière la maladie. Le pont entre le code génétique et le développement de la mémoire enfantine sera à jeter. La science réalisera que la relation entre le code génétique et la mémoire enfantine est la clé à l'élimination de toutes les formes de maladies, car cette mémoire est directement liée à la cristallisation des forces astrales dans les cellules. Lorsque ces forces se cristallisent, l'enfant, et plus tard l'adulte ne peuvent plus renverser le processus de la maladie, car la cristallisation des forces astrales équivaut à une forme d'encryption qui fige la cellule dans son évolution et la force à se comporter selon une programmation qui relève des lois occultes de la vitalité. Seul l'esprit peut enrayer une telle programmation. Mais l'homme, en général, n'est pas suffisamment conscient de son esprit pour en utiliser les forces cachées. La communication révolutionnera la manière dont les hommes feront des affaires. Elle forcera les pays à reprendre contact entre eux au-delà de leur identité nationaliste. Les peuples les plus rébarbatifs se verront forcés de se joindre au mouvement planétaire sous peine de recul économique dont la taxation serait incalculable. L'exploration de votre système solaire permettra aux nations de réaliser que le cosmos est trop vaste pour que soit viable une telle forme d'exploration au stade actuel de votre technologie. De nouvelles techniques seront mises à la disposition de l'humanité, afin de lui permettre de réellement voyager dans l'espace sidéral. Le mouvement actuel des nations vers l'espace est une invitation à une réalisation plus profonde, non seulement des limites inhérentes à la technologie terrestre mais aussi à sa compréhension des lois de la gravité. La science découvrira que cette force est essentiellement une condition spatio-temporelle qu'une nouvelle technologie neutralisera dans la mesure où l'homme sera prêt à la recevoir.